l'heure de retrouver la chronique de Sarah Caligna. Bonjour Sarah, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Bonjour Sybille et bonjour à tous. Alors j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous savez ce que signifie le mot indignation ? Eh bien selon Larousse, il s'agit d'un sentiment de colère ou de révolte que provoque quelqu'un ou quelque chose comme une situation qui fait ressentir une profonde injustice. Plutôt simple comme définition, parce qu'à moins d'avoir le cœur d'un sociopathe, on est tous à un moment dans notre vie indignés par quelque chose. Et surtout que depuis 2 ans, j'ai l'impression que le monde entier est indigné. C'est bien simple, demandez à votre voisin ce qu'il pense des dernières mesures prises par la mairie de votre ville, et il vous répondra « Oh, je suis pas très bien informé ». Mais demandez-lui en revanche ce qu'il pense de la situation au Proche-Orient, et alors là, il ne manquera pas de superlatifs pour exprimer son indignation. Roger sera scandalisé, révolté et outré. Alors à ce mot « indignation », je vous propose qu'on lui ajoute une autre définition, celle de « à géométrie variable ». Il s'agit d'une locution adverbiale qui signifie « s'adapter selon les besoins ou les envies de quiconque » qui peut varier en fonction des circonstances. Donc, une indignation à géométrie variable désigne donc une situation où le niveau d'indignation morale est complètement incohérent et dépend de divers facteurs, tels que l'identité de l'auteur ou le contexte politique. Et si vous en cherchez une illustration parfaite, allez voir le programme politique de la France Insoumise. Et ce qui est drôle, c'est lorsque j'ai cherché une définition plus précise à cette expression, l'intelligence artificielle de Google m'a automatiquement proposé la définition du mot « hypocrisie ». Alors pourquoi j'ai fait un long blabla sémantique ce matin ? Parce que depuis 2 ans, Roger et tous les siens prétendent s'indigner des situations d'injustice et se soucier du sort des plus infortunés parce qu'il faudrait qu'on soit tous concernés. Mais ce que je trouve le plus étonnant, c'est qu'il y a 2 personnes dans ce monde qui subissent une situation de profonde injustice et dont le sort devrait concerner plus de 66 millions de personnes, parce qu'ils sont des nôtres. Je parle de Cécile Kohler et de Jacques Paris, les 2 otages français retenus en Iran depuis 3 ans et dont la condamnation vient justement de tomber. Le régime iranien les accuse d'espionnage pour renverser le régime, de corruption sur terre et bien évidemment d'espionnage pour le compte d'Israël. Ce qui est marrant avec les mots-là, c'est qu'ils sont persuadés que le monde entier travaille pour Israël, mais ça les a quand même pas empêchés de se faire infiltrer de tous les côtés par les agents du Mossad. La prochaine fois, je vous proposerai la définition de être complètement aveugle et paranoïaque. Alors, si on doit brièvement revenir sur les faits, Jacques Paris et sa compagne Cécile Kohler, tous 2 enseignants, effectuent un voyage touristique en Iran lorsqu'ils ont été arrêtés le 7 mai 2022. Ils sont accusés d'espionnage et mis en détention dans une prison à Téhéran où ils sont retenus depuis. Et depuis, les familles des otages se mobilisent pour les faire libérer et appellent sans cesse à avoir de leurs nouvelles. Mais en 3 ans, en plus de vivre dans des conditions de détention épouvantables, ils n'ont pu que communiquer rarement avec leur famille, bénéficier que de très peu, voire pas du tout, de l'assistance d'un avocat, et les autorités consulaires bataillent sans relâche pour essayer d'entrer en contact avec eux. Leur sort est un temps resté incertain depuis les frappes israéliennes sur la prison d'Evin à la fin du mois de juin 2025, mais selon les propos tenus hier par notre Premier ministre, ils sont sains et saufs et ont pu bénéficier d'une visite consulaire. Alors, vous vous demandez sûrement ce que fait la France pour parvenir à leur libération. Alors, en premier lieu, les avocats des familles des otages ont annoncé saisir l'ONU et en particulier le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture d'une demande visant à examiner la situation des 2 otages. Car selon les rares nouvelles qui parviennent de la prison d'Evin, leurs conditions de détention sont épouvantables. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, ayant même qualifié ces dernières comme assimilables à de la torture. Jacques Paris serait détenu dans une petite cellule sans lit, ni chaise, ni table, avec de la lumière artificielle 24h/24 et autorisé à 3 sorties de 20 minutes par semaine. Le reste du temps, il n'a aucun moyen de distraction et est soumis régulièrement à des interrogatoires musclés et à de la torture. Cécile Kohler, de son côté, est détenue dans une cellule de 8 mètres carrés avec plusieurs co-détenus, sans fenêtre, sans lit et avec de très rares autorisations de sortie. Et l'état de santé des 2 otages serait en outre alarmant. Dans un second temps, la France a déposé le 23 mai 2025 une plainte contre l'Iran devant la Cour internationale de justice pour violation de son obligation de donner droit à la protection consulaire. En effet, selon l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, les fonctionnaires consulaires d'un pays ont le droit de rendre visite aux ressortissants de leur État qui sont en prison, de s'entretenir avec eux et de pouvoir assurer leur défense en justice. Ce qui, en l'État, n'est absolument pas permis par l'Iran, puisqu'en 3 ans, les consuls ont pu rendre visite que 4 fois aux prisonniers dans des temps très limités et sans pouvoir leur offrir l'assistance d'avocats qui ne soient pas corrompus à la solde du régime. Si la France obtient gain de cause avec cette requête, la CIJ pourrait forcer l'Iran à mettre un terme sans délai à ses violations du droit international et en réparer toutes les conséquences. Mais autant vous dire que les chances de faire obéir les mollahs à autre chose que leur supposée loi divine est quasiment nulle. On parle tout de même de types qui pendent leur propre femme pour un cheveu qui dépasse ou de leurs enfants pour un mot prononcé de travers. Alors je pense personnellement que l'article 36 paragraphe 1 de la Convention de Vienne de 1963 est le dernier de leurs soucis. Se pose maintenant une question plus générique. Que fait la France en règle générale pour libérer ses otages? Eh bien, la France a toujours eu une position très claire. Elle ne paie pas de rançon. Jamais. Cette politique a pour but de ne pas financer le terrorisme et de ne pas inciter la prise d'otages. À la place, elle emploiera tous les moyens diplomatiques et juridiques à sa disposition pour parvenir à leur libération, comme les négociations avec les représentants locaux, les relations diplomatiques, le potentiel échange entre un otage et un prisonnier, ou encore le dépôt de requêtes devant les instances internationales. Alors ça avance, mais doucement, mais pas assez vite, concernant l'urgence de la situation. Car d'un point de vue du droit international, hein, vous savez, celui-ci que tout le monde prétend connaître par cœur depuis le 7 octobre, la situation de Cécile Kohler et de Jacques Paris consiste à ce qu'on appelle une détention arbitraire. Selon l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et l'article 9 du Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, la détention arbitraire, c'est lorsque la privation de liberté d'une personne se fait sans justification légale ou sans respect des procédures prévues par la loi ou viole les droits fondamentaux. En d'autres termes, on ne peut pas priver de gens de liberté sans procès équitable et sans l'assistance d'un avocat. Et surtout, on ne peut pas être retenu pour des motifs complètement fallacieux sortis de l'imaginaire paranoïaque de l'esprit étriqué des mollahs. Alors quand on entend tout ça, on se demande pourquoi. Pourquoi la situation, leur situation n'émeut pas le cœur de tous alors qu'il s'agit de nos compatriotes, de ceux qui ont grandi à nos côtés et partagé notre table, ceux avec qui nous partageons une histoire et un hymne commun. Et puis, je me souviens qu'au moment de leur enlèvement par le Hamas, le 7 octobre 2023, la situation des otages français, Ofer Calderon et Yoad Al-Yaoulami, n'avait pas non plus suscité l'ire de l'indignation collective. Alors, il faut peut-être en tirer un avertissement à tous ceux qui auraient un jour l'infortune de se rendre dans des pays à risque. Il y aurait une seule erreur à ne pas commettre. Ne tomber jamais entre les mains de mouvements islamistes ou terroristes. Parce qu'à ce moment-là, la peur collective supplantera toute forme de raison et d'indignation générale, et votre sort tombera dans l'oubli. À la semaine prochaine.